Bonjour, je suis Vincent et mon film préféré c'est Subway. C'est un film de je sais plus qui d'ailleurs, de Luc Besson, voilà, comme mes amis m'aident, avec Christophe Lambert, Isabelle Adjani et Subway, comme son nom l'indique, ça se ou pas d'ailleurs, ça se passe dans le métro parisien. C'est un film j'aime bien parce que moi je suis parisien et ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Les scènes Gare de Lyon, sur les quais du RER, dans les escalators. Puis alors que c'est un film des années 70, hein, et quand on était 70-80, et quand on était môme, il y avait des choses qu'on adorait, c'était le roller avec ses phares. Christophe Lambert qui se balade dans les sous-sols du métro avec un néon, ça fait un peu Star Wars et sabre laser. Après, l'histoire du film, bonne question, l'histoire du film, l'histoire du film, c'est fini.
À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
La semaine dernière, un deuxième numéro de notre thème mensuel nous a mené à chercher des chefs-d'œuvre loin des franchises de studio, et aujourd'hui nous vous proposons de découvrir un homme qui n'a pourtant pas évité dans sa boucanie de création et de gloire un écueil. Et cet homme, c'est Sylvester Stallone. Un numéro plus léger s'ouvre devant nous, à chasser ces films vus parfois avec gêne ou rire, qui existent par et pour leur inspirateur. Cette semaine donc, nous nous demandons si Stallone était en soi condamné à croiser des nanars, les siens les plus fous, les plus audacieux, l'homme qui a essayé de tout tourner. Les méritait-il, au fond? Graffiti Cinéma, c'est un thème par semaine, décliné en trois parties et un regard sur l'actualité. Après les aventures de Sly, aujourd'hui, vous découvrirez en fin d'émission notre regard sur un des jeux vidéo de l'été, Yag Alliance 3, qui est peut-être la meilleure adaptation de The Expendables dans l'univers vidéoludique. Nicolas, bonjour. Tu es l'homme qui a vu plus de nanars staloniens que les autres.
Bonjour.
Notre deuxième Nicolas, notre Nicolas préféré, est également avec nous.
Quel enfoiré!
Pour parler du Sylvester avec son regard acéré, nous avons Thomas, le roi des calembours gênants, qui est avec nous.
Ouais, j'ai envie de m'appeler Nicolas maintenant.
Évidemment. Et également Juliette, qui est toujours avec nous cette semaine. Merci d'être là, entourée de nanars.
Et c'est vous les nanars?
Et oui, c'est nous les nanars. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro de Graffiti Cinéma, le troisième de la saison.
Il faut que je répète votre unicarte. Monsieur Suzar. Votre permis vous a été retiré. Trois interpellations pour conduite en état d'ivresse.
Un petit conseil. Vous avez intérêt à aller voir plus loin si j'y suis et arrêtez de me prendre la tête. J'ai des amis au placé et si je les appelle, ça va faire mal.
On a un petit souci, Archie?
Non, aucun. Je vais régler ça, Dredd. Retrait de permis, trois conduites en état d'ivresse.
Ça commence à devenir rasoir, faut pas pousser. Bon, là, la facture, c'est combien? Alors, combien je dois cracher? Dites-moi votre prix, allez.
Archie demandait un fourgon déblayeur.
Quoi? C'est pas vrai, je rêve, vous allez l'envoyer à votre fourrière de merde!
La fourrière, c'est pour la première infraction, vous en êtes au quatrième délit compte tenu de votre haleine. Qu'est-ce que vous plaidez?
Non coupable!
J'étais sûr que vous alliez dire ça.
Ça va pas, mais qu'est-ce que vous nous jouez, là?
Grenade!
Grenade!
Non!
Bonne route.
Alors la question du comment cette semaine, Stallone, les nanars et le reste, c'est une émission un peu plus légère évidemment. Est-ce que finalement, on vous parlait de cette boulimie de rôle, de comédie et de choix dans la dernière émission, est-ce qu'à votre avis, il pouvait éviter ces nanars avec une telle envie de cinéma?
Dit comme ça, ouais, je dirais presque non parce que tu réponds à la question, mais il fallait, d'ailleurs tu le dis quand on a parlé de Rocky. Quand il va à la télé, qu'on lui demande de faire du Rocky tout le temps, de lever le poing, ben voilà, soit c'est l'acteur qui va résister à ça et qui va dire non, je vais totalement ailleurs. Mais quand il va ailleurs, ben le retour critique est pas forcément là, le retour public est pas forcément là, donc ben, il se dit bah il faut que je continue. Donc effectivement, ça Rambo 2, 3, 4, ça porte le flanc à ce côté-là et. Et quand il y a un projet qui lui tient peut-être plus à cœur, qui ne fonctionne pas, il peut retourner vers des choses moins plus alimentaires quoi pour le coup. Donc même lui, je pense, il est conscient que ces choses-là sont pas extraordinaires.
Alors The Expendables, c'est ce qui nous occupe vraiment cette première partie. Les Nicolas, je sais qu'on a pas mal vu hein, des The Expendables. On peut résumer hein, donc directement, c'est un projet plutôt méta qui permet à Stallone de rassembler toutes les stars des films d'action des années 90, dont Dolph Lundgren, qui en fil rouge, on n'arrête pas de massacrer depuis deux semaines. Dolph Lundgren revient, Chuck Norris, Schwarzenegger, Bruce Willis, c'est une orgie de héros de films d'action des années 90 et 2000. Jason Statham également apparaît ici. Si Expendables, c'est des mercenaires qui décident de combattre des gros méchants, en général plutôt armés et plutôt moustachus, dans des régions plus ou moins lointaines des États-Unis, et on décide de monter ces équipes de gros soudards, parce que les Expendables, sa traduction, c'est les gens qu'on peut perdre hein, directement, c'est ceux qu'on peut se permettre de voir disparaître. C'est des sortes de Rambo, mais d'un point de vue très très pop, très caricatural, et c'est assumé dans ces films-là. C'est la dernière saga dans la carrière de Stallone. C'est souvent consternant, mais le premier avait eu un vrai effet de surprise.
Ouais, et puis surtout, je pense que plus on avance dans cette saga, plus le côté second degré en fait apparaît. C'est-à-dire que moi, j'ai revu le premier il n'y a pas très longtemps, et en ayant depuis vu les autres, et je l'ai trouvé parfaitement sérieux par rapport à ce qui allait suivre après. C'est-à-dire que le côté de Chuck Norris qui va arriver, après je sais qu'il y aura un Van Damme, etc., on se rend que le début, ça reste encore. Il tente un coup d'essai, il se dit que c'est un côté méta. Quelque part, on se tourne un peu en dérision tout ce qu'on a pu faire dans les années 80 dans ces films d'action de fusillade. Et puis après, on se dit ça marche, on peut penser, puis là maintenant, allez, on invite les potes et on déconne et on se tourne en dérision. Quoi.
Quand on parle de Nana, moi ça me fait penser à ce qui s'est passé avec Sharknado. C'est un peu la même chose. Le premier Sharknado, il y a une forme de se dire je vais essayer de faire ça avec sérieux. Mais bon, on sait très bien que le niveau est pas bon. Et après, ça devient une parodie.
De parodie.
Et là, pareil, Expendable, ça devient une parodie de la parodie.
Alors, dans le premier, a eu un succès d'estime plutôt sympa parce qu'il y avait cet effet de surprise. Les 2, 3 et le 4, là, qui est annoncé dans les prochains mois. Notamment la bande-annonce, Nicolas, premier du nom, on peut en parler, hein, c'est très, très, très violent.
Hey, qu'est-ce que tu fais là?
J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides.
Faut que je change d'ami.
C'est le nouveau, lui? C'est lui notre sniper?
T'inquiète pas, j'ai des lunettes de précision.
Œil de lynx, regarde bien ce visage. Tire pas dessus par accident.
Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la Troisième Guerre mondiale.
Faire cette vie à tes amis. À ta famille.
On fait tout péter.
Il y a du sang.
C'est une véritable boucherie, ouais.
Voilà, et on revient à ce que à l'évolution qu'avait fait Stallone dans la saga Rambo. Hein. On veut quelque chose de plus viscéral, de plus réaliste. Toujours une forme de frustration, quoi. C'est quelqu'un qui joue avec les frustrations. Vous avez pas eu ça, bah, je vais vous le donner. Très connecté à son public.
Moi, j'ai l'impression d'être invité à un barbecue, en fait. non, mais c'est vrai, on entre potes. Bon, voilà, on va dessouder des mercenaires. C'est très sympa. Moi, clairement, c'est une saga que j'apprécie. Hein, voilà, je le dis, ça n'a rien de très intelligent, mais qu'est-ce que ça me détend, quoi.
Mais du coup, c'est un barbecue où Sandrine Rousseau n'est pas invitée, quoi.
Ah non, pas du tout.
Ouais, là, c'est sûr.
Ouais. Bon. Non, mais c'est très bas du front. Enfin, voilà, c'est pas invité du tout. Il y a quelques demoiselles dans le film, c'est Megan Fox dans la bande-annonce là qu'on vient de voir, elle est filmée d'une façon assez...
Transformers quoi.
Mais c'est une saga, The Expendables, on peut dire qu'il ferait presque passer Transformers pour du Godard hein, parfois. Donc ah oui, c'est vous dire à quel point ça va très très loin.
Mais c'est assumé.
C'est assumé.
Oui, c'est assumé.
Mais en même temps, Stallone, là aussi, je pense qu'il prend quelque chose de l'air du temps et qu'il a compris. Quand on parle du côté méta qui va... alors le côté méta, c'est en gros... On va prendre ce qui est important dans le film, on va prendre les acteurs, mais évidemment pour tout ce qu'ils apportent. Donc c'est quelqu'un qui parle à des cinéphiles. The Expendables, c'est vraiment une saga pour des cinéphiles qui ont vu les films de Stallone, et c'est aussi un clin d'œil à ses fans. Et c'est là aussi où il est très malin, c'est pourquoi lui, il le fait et réussit avec ça, c'est que C'est l'air du temps d'être très métafilmique.
Mais en fait, dans The Expendables, il n'y a pas de personnage. Le personnage, c'est l'acteur, finalement. Ouais. Donc, tu vas pas voir une histoire, tu vas voir tes action man.
D'ailleurs, tu les connais pas, les noms des tu connais pas les noms des personnages.
Bah non.
Aucun. Tu sais juste qu'il y a Jason Statham, tu sais juste qu'il y a Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren, toute la pelletée.
Et puis t'es content, tu sais que tu vas avoir Jet Li qui va faire des trucs à la Jet Li, tu vas avoir Jason Statham qui va mettre des tatanes. Enfin, tous vont respecter leur style. Voilà quoi. C'est ça que t'as envie de voir finalement.
Qui c'est qui a fait ça?
Pas moi, plus de munitions!
Qu'est-ce qui s'est passé?
On dirait que quelqu'un a fait le ménage.
Ah ouais, apparemment.
Où sont les tireurs?
J'en sais rien, mais si j'avais voulu notre mort, on serait mort.
Barney?
Ne flippez pas.
Le monde est petit, hein, Barney?
Booker? On m'avait dit que t'étais mort.
Oui, c'est ce que j'ai entendu. Bon alors, comment ça va?
J'ai été mieux. C'est toi qui les as tous tués?
Je bosse en solo, je croyais que tu le savais.
On me l'avait dit, mais j'y croyais pas.
Maintenant, t'y crois? C'est ton équipe?
Oui. Gunnar, Tolrod, Al César et Maggie.
Booker. T'es celui qu'on appelle le loup solitaire?
Oui, avant, oui. Mais je me suis sociabilisé.
Pas tant que ça. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal.
Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort.
C'est également le clin d'œil ultime de Stallone, parce que évidemment, ça sera sa dernière saga, on sait, parce que Stallone, il n'est pas éternel comme nous tous. Il va faire le 4 là dans pas longtemps, qui est quasiment le au revoir pour cette grande saga de Stallone. Après, évidemment, on le reverra probablement dans des seconds rôles ou des séries, hein, comme Tulsa King également, qu'on peut évoquer ici, qui est pas du tout une série nanarde, hein, c'est pour ça qu'on l'avait pas évoqué dans cette série-là, bien au contraire, mais une série où il vient un peu saluer des figures cinématographiques et des registres dans lesquels il a pu traverser. Alors, The Expendables, évidemment, il y a le premier. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres que moi j'ai pas forcément vu, 2, 3 et le 4 qui s'annonce voilà, est-ce que ça ne va pas trop loin?
Est-ce qu'ils peuvent aller trop loin? Il y a plus de copains, il y a plus de nouveaux acteurs, c'est ça qui est rigolo, il y a Harrison Ford qui se pointe, il y a Chuck Norris qui se pointe. À chaque fois, ce qui est rigolo, c'est d'attendre de nouveaux personnages, ils arrivent et on est content de les voir. Moi, ce serait une série télé, ce serait pareil quoi. Il y a pas vraiment d'intérêt et en même temps, c'est pas très grave.
Ouais. Donc Stallone arrive à rire de ce qu'il a été, dans le pire, à tel point que vous avez Chuck Norris dans le 2, qui va même citer des Chuck Norris facts, ces fameuses proverbes qui sont créés, dérivés de la carrière de Chuck Norris, qui sont devenus très célèbres aux États-Unis et également en France.
Il y a d'autres fun facts comme ça, un peu méta, c'est pareil, une allusion à un personnage Schwarzenegger, je crois qu'il me dit à un moment donné, t'as pas fait de la politique ou un truc comme ça. Il y a aussi une allusion, je crois, au fait que Wesley Snipes a fait de la prison. S'ils sont bons, enfin voilà, il y a pas mal de choses méta là-dessus.
Il arrive même à transformer Antonio Banderas en personnage de film d'action quand même.
C'est beau.
Ce qui n'est pas non plus évident.
Après, vous avez eu Benjamin Biolay, mais il a été coupé au montage. Donc. Ça, c'est pour une blague un petit peu concernante. Mais en tout cas, on commence à rire avec les nanars de Stallone, mais là, un rire assumé et un rire, je dirais, presque provocateur pour tous ceux qui l'ont décrié. C'est dire, en gros, bah, vous m'avez décrié pour ça, vous m'avez pas aimé pour ça. Moi, je vais en parler que à mes fans, pour mes fans et par mes fans. Et c'est comme ça que je veux dire, on voit en fait à une grande saga d'action. C'est cette démarche-là très mégalo, dans un sens. Mais on va dire, on va lui accorder le bon sens du terme, avec laquelle Stallone va vraiment saluer l'ensemble de sa filmographie. Nicolas, pour cette première partie, et puis après, évidemment, on aura deux thèmes très importants sur les autres nanars.
Pour terminer sur Expandables, je pense qu'en fait, ce que tu as dit, c'est que en fait, c'est un hommage. Voilà. C'est le mot gentil et poli pour excuser. Mais c'est un hommage. Voilà. C'est un hommage qu'on a fait, qu'on a aimé. Là, ça passe tout seul.
Ben, ce que je vous propose juste après la pause musicale, ben, c'est directement un extrait d'un des nanars qui va être un des très mauvais films de Stallone. On va écouter un extrait de Cobra, le polar manqué qu'on évoquait dans l'émission précédente quand on parlait des bons polars de Stallone et de sur le cas de ne pas l'avoir vu dans des très très bons polars. Ben, là, vous allez avoir Cobra qui va devenir une caricature de caricature déjà au moment de sa sortie. On se retrouve juste après.
La société engendre une nouvelle race de criminels. Engendre aussi une nouvelle race de flics.
Entendu un extrait de Cobra, mais dans cette partie-là, on va vraiment parler des projets qui ont été les plus concernants de Stallone et pour lesquels même on se pose des questions de quelqu'un d'aussi malin en termes de production, en termes de scénario, a pu se retrouver dans des films aussi légers. Alors, Cobra, c'est un film très particulier, très conservateur, à tel point aujourd'hui qu'il n'est pas regardable pour beaucoup de personnes, parce que Cobra, ce film des années 80, il est devenu ce que Stallone refuse peut-être aujourd'hui d'être. C'est un film de George Cosmatos en 86. Alors Cosmatos, c'est quelqu'un qui l'accompagne énormément. Et c'est aussi un film qui est produit par la Canon. La Canon, c'est cette société de production qui a fait tous les acteurs et tous les héros de séries qu'on retrouve dans The Expendables, notamment Chuck Norris, qui a été très très largement produit par la Canon, qui sont des films, alors aujourd'hui, on en rigole heureusement parce que c'est des films ultra conservateurs. Ça peut être une idéologie qu'on respecte, mais c'est parfois excessivement loin.
On ne respecte pas.
C'est une idéologie. Donc après, c'est pas la nôtre, mais c'est celle ultra conservatrice des États-Unis où il faut refaire la guerre du Vietnam avec des films comme Portée disparue avec Chuck Norris, qui évidemment prend la suite de Rocky 2. Des films qui refont en permanence ce que les États-Unis ont raté et qui vont montrer une haine, une xénophobie absolue de tout ce qui n'est pas américain. Voilà, donc c'est vraiment des films très importants qui sont devenus emblématiques de la carrière de Chuck Norris, qui lui n'a pas eu la chance, et en tout cas pas l'envie, ni le talent également,
aussi, c'est ça,
pour aller chercher ces bons films de Stallone qui mettent en perspective ces nanars-là. Parce que Cobra, on le résume très rapidement, de toute façon le scénario tient sur une feuille de papier alu, une petite, hein. Il est signé par Stallone, en plus c'est scénario, il est tiré très vaguement d'un roman, et ce film raconte directement, alors ça tient en deux phrases hein, sur Wikipédia, Cobra est devenu en fait quelqu'un qui évite une prise d'otage dans un supermarché. Ce policier à l'allure virile, aux lunettes ridicules, va combattre un méchant qui est libéré par la justice, cette très méchante justice qui libère les méchants parce qu'ils ont des vices de procédure, alors que les bons flics doivent les combattre dans la
justice rouge.
Cette justice rouge, cette justice de communiste. Alors pourquoi on dit ça et qu'on caricature? Parce que vraiment ce film en est un, et va encore plus loin que ce que Rambo 2 combattait, quand il combattait les élites. Quand Rambo 2 combat les élites et qu'il y a cette scène incroyable de fin où Rambo s'en prend au colonel qui l'a lâché, qui l'a abandonné au Viet Cong directement dans le film, à la rigueur, on peut dire qu'il y a une forme de légitimité de l'ancien héros du Vietnam qui va combattre ceux qui ont lâché les soldats sur place. Là, Cobra, ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui va s'en prendre à sa société, à l'image de ce que Charles Bronson fait dans ses derniers films très très tristes du Justicier. On est typiquement dans un film de vigilante, donc le mec qui va vous surveiller. Mais sauf que là, le vigilante, c'est pas un héros de la société civile, c'est un policier, c'est quelqu'un qui représente une autorité légitime. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut utiliser, même si ça peut paraître un peu exagéré, quasiment de film dangereux pour Cobra, parce qu'il est incroyablement réactionnaire, celui-ci.
Moi, j'ai toujours fait un lien avec le personnage du... Alors, c'est un personnage de bande dessinée qu'on connaît un petit peu plus aujourd'hui, c'est le Punisher. Je sais pas si vous voyez, c'est le vigilanté, c'est-à-dire l'image du mec. La loi ne fonctionne... Enfin, la justice ne fonctionne plus, donc je dois rendre la loi par moi-même, quoi. Et le personnage de Frank Castle, voilà, alors qu'il est pas policier, qui était militaire à la base, et qui, justement... assiste à un drame et va devoir rendre la justice lui-même. Donc, j'ai toujours fait un parallèle dans les. Enfin voilà, en plus l'époque correspond. Je pense quelque part qu'il y a une influence. C'est pas clair, mais avec ce personnage, le film est regardable. Aujourd'hui, ce serait une icône de Trump que ça. Je serais pas étonné. Voilà, il correspond à une époque. Je suis pas sûr que Stallone soit vraiment convaincu par le personnage. Je cherche pas à lui donner des excuses, mais peut-être qu'il cherche juste à surfer sur une époque et sur des thématiques. Comme tu disais, le justicier dans la ville, ou ce genre de film où il y a ce côté voilà, vigilanté qui revient. Change had much to say, but man, I still think them cats are great. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. Tonight's are getting warmer. It won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. The boys are back in town. The boys are back in town.
Un autre film également, un échec très important qui est devenu un nanar absolu, pourtant c'est un excellent comics, c'est Judge Dredd. Et ça, c'est assez incompréhensible également de voir à quel point il a pu se gourer sur ce personnage-là. Alors là, il y a deux grands spécialistes de Judge Dredd. Je vais lancer Nicolas en premier, et puis Thomas va compléter derrière. Ce film-là est devenu complètement fou. En plus, il retrouve Armand Assante, qui est un de ses premiers potes, et un de ses meilleurs potes à Hollywood, puisque Armand Assante, c'est celui qui joue un de ses frères dans la taverne de l'Enfer en 78. Il y avait a priori énormément d'atouts pour que ce film puisse réussir. Pourtant, quand on voit la matière du comics, on se dit que c'était pas fait pour ce Stallone-là, à ce moment de sa carrière.
Oui, c'est un comics anglais à la base qui est extrêmement politisé, qui est vraiment un coup de poing dans la gueule de Thatcher et qui n'a aucun autre but vraiment que de cracher à la gueule du puritanisme anglais de l'époque. Il est pondu par des mecs, voilà, il y a Alan Moore qui passe aussi dans la série, donc c'est une série très très dure, très limite comique.
Mais en même temps très drôle, voilà.
Et voilà, et très drôle en même temps. C'est une violence graphique, mais en même temps, elle est pas vraiment, elle fait pas peur, quoi. Elle est vraiment, ouais, on est à la limite de la parodie. Et cet aspect-là est complètement loupé dans le film. Alors, moi, le film, je lui trouve des qualités. Je lui trouve des qualités en termes d'adaptation graphique. Je trouve que tout l'aspect costume, posture du personnage, il est là. Dredd, enfin vraiment, Stallone en Dredd, ça ne détonne pas. C'est pas déconnant, hein. Par rapport au personnage. Mais justement, ils auraient dû pousser le curseur encore plus loin de la parodie. Enfin, voilà, on aurait vraiment dû avoir un personnage limite ridicule dans sa connerie, dans son jusqu'au boutisme, quoi. Et on n'a pas vraiment... je pense qu'ils n'ont pas osé. Et ils sont restés dans un truc assez soft par rapport à la folie du personnage, quoi.
Je sais pas
si... C'est un personnage... voilà, Thomas, peut-être que tu peux le dire.
Ouais, on a un deuxième Nicolas aussi, hein, qui aime bien les comics et qui peut réagir sur Judge Dredd, Thomas. Puis après, évidemment, on va avoir nos deux Nicolas là-dessus. Parce que là, on est vraiment dans un sujet qui est parmi les premières adaptations de comics avant l'ère du MCU. Et on voit, ça fait partie des tentatives pré-DC et pré-MCU qui ont failli condamner les films de super-héros avant l'heure, quoi.
Ben, je pense que ça laisse cette impression qu'on a essayé de faire un premier degré et que ça n'a pas été compris. Que Judge Dredd, c'est un énorme second degré, voire 4, 5, 6 si tu veux, et qui n'a pas été compris. Ce qu'on a juste compris, c'est la loi, c'est moi, et je vais défourailler la moitié des choses. C'est pas ça. Et surtout, l'idée même que on voit le visage de Judge Dredd, c'est totalement antinomique avec l'essence même du personnage et de la série. Pour nos auditeurs, Judge Dredd, c'est un personnage qui est casqué. On ne voit que sa bouche, tout ce qu'on voit. Alors, toute la première partie du film, ouais, ça fonctionne totalement sur cet aspect-là, mais dès qu'on voit son visage, on perd justement l'idée que la loi, elle pourrait s'incarner par n'importe qui. La violence, elle pourrait s'incarner par n'importe qui. Là, on voit son visage, bon, bah, on sait que c'est Stallone. Donc, évidemment, concrètement, on sait bien que ce qu'il va faire dans le reste du film, c'est juste. Ce qu'il doit faire, c'est juste. Alors que Judge Dredd, il fait des choses qu'on pourrait comprendre, nous, de façon injuste, en se disant, mais il va trop loin. Il ne peut pas condamner un mec à la peine de mort directement comme ça. Il ne peut pas envoyer en prison quelqu'un qui a fait ça, quelque chose d'assez insignifiant, finalement. Alors que là, Stallone, on sait bien que bah, voilà, toute la suite du film, c'est une histoire de vengeance et de rétablir le bon droit tel qu'il aurait dû toujours être. C'est pour ça que ça, c'est un nanar dans le sens où visuellement c'est pas il y a des choses qui sont pas abouties mais c'est je pense une incompréhension totale du matériau de base.
Je connais pas assez bien le comics pour en parler maintenant du souvenir que j'ai du film je croyais ce que je voyais à l'écran. Ça me fait penser qu'à l'époque il y avait des tracés, des softs, et je trouvais que visuellement c'était très réussi, c'était très proche. On avait vraiment voulu être fidèle au graphisme. Un peu à l'inverse de son comics qui ont été faits ces 10-15 années, où là par contre on a tiré un trait sur l'aspect visuel pour le réadapter. Donc peut-être qu'à l'époque il y avait cette démarche de dire pour vraiment faire un comics il faut être fidèle, plus sur la forme qu'au détriment du fond. Je sais pas, mais je suis assez d'accord à ce que disaient mes collègues là-dessus. Maintenant, voilà, je suis pas assez expert sur le comics pour juger sur le fond, en tout cas sur la forme, je trouvais ça assez fidèle. Maintenant, C'est typiquement une franchise qui a obtenu des suites, et probablement qu'il y en aura peut-être un jour, mais en tout cas à l'époque. Ça aurait pu donner une saga, etc.
Bah pour ceux que ça intéresse Judge Dredd en tant que tel, la vraie adaptation c'est le deuxième, c'est Dredd. Réellement, ça, voilà, le nom du film c'est Dredd. Et là, on sent bien que ça a été maturé, on a mis du temps et que les gens investis dans le projet ont réellement compris ce qu'ils devaient faire. C'est Karl Urban qui fait Dredd et ça fonctionne totalement. Voilà, ça fonctionne totalement. Et qui est passé sous les radars, pour le coup, le film, encore une fois.
Ça arrive au meilleur. On va se lier à notre de Nicolas, il nous restera une dernière partie tout à l'heure, que vous entendrez juste après cette pause musicale, et puis un extrait d'un nanar pour lequel, lui, il n'y a pas de débat, on en parlera tout de suite, juste après, Arrête ou ma mère va tirer, qui est absolument terrible aussi. On salue Nico, puis on se retrouve tout de suite pour notre dernière partie de cette troisième émission, consacrée à Stallone et les nanars, ces films qu'il aurait pu éviter finalement.
There are 100 laps, 200 miles between this race and a champion. Probably was thinking he was the winner of the championship. He was 4 points ahead and Blythe looked like he was out of the running. And we've just received word that Jimmy Blythe will be driving, which is amazing news after his injury he suffered in Germany. So as it stands, if Jimmy Blythe wins this race, he will become the new world champion.
So why'd you do it?
You help me. I thought maybe I could help you.
Passagers du vol 373 en provenance de Chicago peuvent aller reprendre leurs bagages en section B.
Relax, Joe, relax.
Regardez ça, ça doit être lui là-bas.
Oui, c'est lui.
L'avion de Dallas qui devait décoller à 15h20 aura 40 minutes de retard.
Vous devez être Joe.
Pourquoi?
Comme ça, je faisais pipi au lit aussi.
Arrête où ma mère va tirer est un nanar qui ne fait pas de débat, évidemment. Pour Stallone, il y a même une légende autour de ce film-là, pour lequel on va passer plus vite. Juliette, tu la connais peut-être cette légende, puisque je te vois opiner du chef,
c'est pas très radiophonique. C'est la légende avec Schwarzy, en fait.
Oui.
L'un a fait croire à l'autre qu'il allait prendre le rôle pour que l'autre le prenne, parce qu'il savait que ça allait être un nanar, quoi.
C'est ça, la légende est là. Schwarzenegger était à fond sur le projet, alors qu'il savait que c'était un scénario absolument nul. Stallone se précipite dessus, fait le film, et évidemment, c'est une véritable catastrophe que Stallone a toujours déjugé et là, qui est absolument insauvable. Dans cette dernière partie, justement consacrée aux nanars et aux Stallone, il y a des nanars qui sont en débat. Il y a des films pour lesquels on peut dire est-ce que on aurait pu avoir un bon film ou est-ce que tout simplement c'est pas un nanar. Et je vous ai constitué une petite liste comme ça qui potentiellement, alors à voir que le débat est plutôt du côté nanar que l'autre, mais s'il y a un bon avocat, peut-être qu'éventuellement on peut sauver ces films-là. On peut parler de L'Expert ici, on peut parler de Daylight également. Moi je le mets également dans cette liste, même si j'aime bien ce film.
L'Expert, c'est un film dans son temps.
Alors, L'Expert, j'en prie.
C'est celui avec Sharon Stone, c'est ça?
C'est celui avec Sharon Stone qui a été complètement massacré par la critique.
C'est pas un bon film du tout. Après, il est pas complètement nul, mais pas loin. Mais c'est un film qui est dans son temps, quoi. On exploite l'aspect un petit peu érotique, mais pas trop, parce qu'il faut que ce soit pour un film pour tout le monde avec Sharon Stone, quoi.
Ouais, je souris parce qu'en même temps, évidemment, moi, je vais chercher la fiche du film pour qu'on en dise des bonnes choses.
C'est sulfureux.
Je trouve que tu le défends hyper bien. Non, en fait. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que le film se fait massacrer quand il sort. Il est réalisé par Louis Le Saz. Et je me dis, bon, bah, on va essayer de sauver ce que fait le réal. Ce que je trouve comme notre cinématographie, Louis Le Saz. Louis Le Saz, qui est réalisateur, c'est un cousin de l'écrivain Mario Vargas Llosa. Voilà. Ça, c'est ses compétences. Et ça, c'est le réalisateur du film. Alors, qu'est-ce que raconte l'expert, blague à part? Il raconte la vie de Ray Quick. Déjà, dès le nom du personnage, on est dans le nanar. Il a été reconnu responsable d'un accident qui a coûté la vie à une enfant innocente, parce que des enfants, il y en a qui ne sont pas innocents. Là, c'était une enfant innocente. Il travaille désormais en freelance. Voilà, il est expert et est contacté par une mystérieuse May Monroe qui lui demande de tuer des hommes qui ont assassiné ses parents dans son enfance. Alors, pas dans l'enfance de ses parents. Sinon, elle ne serait pas née. Voilà. Mais dans son enfance à elle, ses parents...
Alors, poupée, c'est gentil de prendre le bus toute seule comme ça.
Arrêtez.
Quoi? Je suis pas assez bien pour toi? Hein? C'est juste pour s'amuser.
Perds pas ton temps, mec. T'as pas vu sa gueule.
Arrêtez. Laissez-moi tranquille.
Bon, allez, laisse-toi faire.
Ouais. Allez, souris, mignonne. Tu veux qu'on aille faire un tour tous les deux?
Tenez, prenez ma place, madame.
Merci.
Écoute,
merci.
Ah, il se fait pas chier.
Cette place est prise.
Arrêtez. Arrêtez.
Va chier. Je vous demande pardon.
Va chier.
Donnez-moi ça, s'il vous plaît.
Alors pourquoi on rigole? Parce que c'est vrai que pour l'expert il y a beaucoup moins de débats. Là on a un film où justement Stallone essaye de revenir un peu justement à l'esthétique du polar, et là où il y a eu de regrets de beaucoup de cinéphiles comme nous étions, et à l'image de ce que nous sommes, à l'image des très bons films des années 80, on voit que dans les années 90-2000 ces tentatives pour revenir vers ces genres là ne fonctionnent pas. Là on est en 94, pourtant il y a un casting assez impressionnant. C'est quand même ahurissant de voir qu'il y a Sharon Stone, évidemment, il y a James Woods, il y a Rod Steiger, et bon, il y a Eric Roberts. Bon, ça, ça arrive au meilleur. Oui, bon. Mais Eric Roberts, le frère de Julia, qui n'a jamais eu la moitié du talent d'un cheveu de sa sœur. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive au meilleur.
Et ouais, mais un méchant classique.
Un genre méchant classique. Allez, je suis méchant parce que quand il a été mis en scène, notamment dans la saga SimCity, il a été très bon. Mais c'est typiquement un héros des années 80 de films de série Z, voilà, qui a incarné à son corps défendant beaucoup de ces films-là. Alors, l'expert, pourquoi ça marche pas, en tout cas, mais pourquoi on a du mal à le défendre? Il y a eu des échecs, on les a évoqués dans l'émission la semaine dernière de Stallone, mais il n'y avait plus de conviction. Là, les films que j'ai sélectionnés pour cette liste de nanar ou pas, on sent on y va, mais on a un peu peur. On sent qu'il y a une forme de retenue dans le sens où le film n'est pas abouti et qui ressemble plus à un ersatz de film qu'autre chose. Et c'est une série de films qui va pas totalement au bout de ses idées. Pour l'expert, en tout cas, c'est très compliqué d'en avoir des souvenirs éloquents.
Ah non, mais des souvenirs tout court.
Déjà, on s'en souvient.
Le seul truc, c'est qu'apparemment, il y a un trivia là-dessus, c'est que le méchant devait s'appeler McDonald's. Comme ça, Ray Quick aura tué McDonald's. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez.
C'est terrible parce que le pire, c'est que c'est presque crédible en fait. Ça pourrait être presque passé. Alors, pour l'expert, on a cette plaidoirie assez éloquente. On peut parler de alors j'allais dire Driven, on va s'engueuler par Nicolas qui a un accent anglais parfait.
Oui, mais tous les anglais,
de Driven, évidemment. Driven, alors là, Driven, c'est pareil. Il joue le vieux de la vieille qui était un ancien pilote, qui va être un mentor auprès d'un jeune pilote un peu arrogant. Driven, c'est absolument terrible parce que c'est les premiers films avec des effets spéciaux, vraiment où Stallone va en utiliser un paquet. Lui qui est un grand, et c'est un autre parallèle qu'on peut faire avec notre Belmondo national, lui qui a toujours été un très bon cascadeur et qui s'est beaucoup employé dans ses films, hein, des Rocky de toute façon, hein, on sait qu'il prend beaucoup de coups et qu'il les joue et qu'il veut vraiment mettre ça en avant. Là, Driven, il y a une ère numérique et on sent qu'il, lui-même, son personnage est déjà dépassé par cette période-là. Mais les effets spéciaux incarnent également toute une production et toute une réalisation qui est elle-même dépassée par ce qu'elle met en scène. Driven est absolument un film emblématique de ce qu'a pu louper directement Stallone. Alors ça se déroule dans l'univers des championnats d'auto américains, qu'on connaît très très peu en Europe, qui ne ressemble pas à nos courses à l'européenne, je dirais, si, avec un vrai circuit.
Justement, l'event, ça ressemble quand même un peu.
Oui, mais c'est sur les anneaux de vitesse américains, oui. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'est très culturel. Il y a
des champions quand même.
Exactement, il y a des champions, il y a encore une fois un très beau casting. Hein. Vous avez Burt Reynolds dans un de ses derniers rôles, vous avez Til Schweiger, cet Allemand qui a joué les méchants nazis dans à peu près tous les films hollywoodiens des années 2000.
Et il est allemand.
Et finalement, je veux dire, bon, c'est quand on a ça sur le CV, ça aide, en général. Et c'est lui qui joue le méchant du film, d'ailleurs. Ça tombe bien. Driven, j'ai eu l'occasion de le voir. Il y a une scène absolument consternante. La scène de la pièce. Cette séquence folle de la pièce où Thomas rigole déjà avant que je la raconte. Non. Où Stallone décide de faire une leçon. Et il décide de faire un tour de piste avec une voiture, une F1, hein, clairement. Et il fait un premier tour d'un circuit, il balance des pièces. Tac, tac, tac. À des endroits clés de la piste, on se demande, mais d'ailleurs, déjà moi je me demande mais pourquoi il fait ça. Et après, il refait un circuit. Enfin, je fais hyper bien la voiture. Ça, c'est un talent. Je fais la beatbox et je fais aussi super bien la voiture de F1. Mais ça sera un autre débat. Et il finit donc ce circuit. Il a ramassé toutes les pièces avec ses pneus. Vous avez les pièces que Stallone a posées sur le circuit. Bam, bam, bam. Il y a les trois pièces sur le pneu. Et là, vous êtes scié. Il y a tout le côté empoulé de ce cinéma d'action complètement ringard et nanardisant, où vous vous dites mais quel est l'intérêt de faire ça.
Moi je l'ai vu un paquet de fois parce que mon ex-mari était absolument fan de ce film, donc je sais qu'il y a des scènes aussi de karting et tout ça, et c'est comme d'habitude en fait, c'est toujours le mentor qui transmet, et puis c'est très dans... C'est manqué parce que c'est très dans l'air du temps, mais pas à bon escient. Donc la jolie gonzesse, c'est la petite mannequin comme ça se faisait à l'époque. Le petit jeune, c'est la future star qui finalement n'a jamais percé. Enfin, c'est bien concentré.
En même temps, je rigole parce que je viens de tomber sur le nom du personnage de cet Allemand là, incarné par il s'appelle Bo Brandenburg.
Ah.
C'est-à-dire, c'est le mec qui trouvait-moi un truc en Allemagne qui marche.
Une porte.
Ok, il s'appelle comme ça. Et vous dites que même les scénaristes sont au bout de leur vie, quoi. Ils auraient pu l'appeler Jean-Paul Berlin. Ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien.
Il y a cette idée que le film, dès qu'il sort, il est déjà vieux.
Voilà, c'est ça.
Ouais, il est déjà daté, tout de suite.
Ça fait partie de tes films, c'est juste le contexte qui porte le truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a Stallone à la montagne, il y a Stallone dans un tunnel.
C'est Martine.
C'est ça.
Voilà, c'est, on ferait Stallone au Super U ou Stallone en boîte de nuit, c'est pareil, on s'en fout. C'est la même histoire, le mec.
Pop. Stallone au Super U, ça existe. Hein. Stallone au Super U, c'est Cobra. Parce que la scène d'ouverture de Cobra se passe dans un supermarché. Donc ouais, c'est fait ça. Si vous voulez voir Stallone au supermarché qui va faire ses courses, vous allez voir Cobra et vous faites plaisir. Alors, on va libérer nos amis en ligne parce que c'est vrai que c'est la fin de notre dernière émission, consacrée à la carrière de Stallone. Pourquoi je dis dernière, c'est un lapsus révélateur parce que la quatrième est sur le film du mois. Vous allez voir pour la semaine prochaine, on vous a contacté un programme très spécial. Si on n'arrive pas à démarquer le meilleur film de Stallone, on fera une émission de débat la semaine prochaine. Quelques minutes sur les caméos nanars de Stallone, parce que on sait que dans une des traversées du désert, parce qu'il y en a eu plusieurs dans la carrière de Stallone, et c'est aussi ce qui fait qu'on a beaucoup d'empathie pour ce mec-là, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit ce qu'il a pu incarner, c'est parce qu'il a toujours réussi et essayé de se relever. Il a fait énormément de caméos consternants, et il y en a peut-être un qui sort du lot, c'est celui qui fait dans Taxi 3, qui est désarmant, littéralement.
Ça tombe bien, cette petite course, j'avais justement un nouveau truc à essayer, vous allez m'en dire des nouvelles. Ça vous gêne pas si je mets un peu de musique ?
Non, mais on peut y aller là ?
19 minutes 32 !
Ah alors là, chapeau. D'habitude, aucun client ne résiste. Chaque fois que je m'arrête, hop, la tête dans le sac.
Merci.
Vous êtes sûr que je vous laisse ici ?
Sûr.
Ah bah oui, effectivement.
Bon ben merci pour votre coopération.
Dites-moi, on se serait pas déjà vu quelque part ?
Bon, si je vous avais déjà vu quelque part, je m'en souviendrai. Bon voyage.
Il a un problème capillaire et de chirurgie dans ce caméo. Je sais pas si vous vous rappelez, il est complètement lifté. On sent qu'il se cherche là, au niveau esthétique.
Il y a encore l'esthétique qu'il a dans Get Carter,
qui était le polar très fun, qu'il avait, le mec en costard, un peu fun, qui a réussi très bien, que réussissait John Travolta, mais qui n'était pas fait pour un corps aussi massif et aussi imposant.
Ça lui allait bien dans Tango et Cash, le costume.
C'est vrai que Tango et Cash également peut être en débat.
C'est un film doudou.
C'est un film doudou, c'est mais également il peut être en débat
pourri,
ici
mais
dans la nouvelle image d'un télo que Stallone voulait se mettre. Je mets des lunettes,
ouais.
Voilà, petites lunettes un peu stylées. Il y a cette image vraiment où effectivement on voit que dans le caméo de Taxi 3, il y a encore cette idée de je me cherche. Voilà, je sais pas encore où je suis mais j'y vais. Est-ce que vous avez d'autres apparitions comme ça qui vous ont gêné dans Stallone en second rôle où il vient faire coucou, Nicolas?
Spy Kids 3.
Merci.
Non,
voilà. Ça, Spy Kids 3, c'est Thomas l'a vu également.
Non, je ne veux pas l'avoir vu.
C'est pas facile.
Non, c'est pas facile. Il voit un méchant qui cabotine, c'est irregardable. C'est un vomir.
C'est-à-dire, c'est là, tu parles de Spy Kids 3, mais c'est Spy Kids tout entier, tous les Spy Kids, quoi. C'est juste.
Là, on parle du caméo.
Voilà, on parle du caméo, mais. Puis finalement, il est dans pile poil dans le ton de tous les Spy Kids, quoi.
Qu'est-ce qu'il raconte ces caméos finalement en quelque sorte en ouverture pour ces séquences-là de nanardisante de Stallone? Qu'est-ce qu'il raconte sur, je dirais, le Stallone un peu dépourvu de moyens en 2-3 minutes qui nous restent? Il est démuni là, Stallone, il n'est pas bien.
Hein. Et il est démuni d'argent, ouais. On a beau être une grosse star, mais on a dû payer les impôts.
Non, mais c'est quand tu le regardes avec le retour, t'as l'impression que ça amène à Expandable, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a compris que ce qui commençait à faire sens, c'est
qu'il était une image.
Voilà, qu'il était une image, que les gamins des années 80 eh ben, deviennent des réalisateurs, que les gars qui ont vu ça commencent à arriver aux manettes. C'est pour ça qu'on commence à avoir des adaptations de comics, c'est pour ça qu'on commence à avoir ce genre de choses. Et du coup, lui, il se dit, moi, mon capital, c'est quoi? C'est tous mes films un peu bas du front, je fais des apparitions je fais des caméos pour ça, pourquoi pas faire un film qu'avec des caméos finalement, un film d'une heure et demie où il y aurait que des caméos.
Allez.
Et bam, ça donne Expandables.
En tout cas, voilà ce qu'on a pu raconter avec ces trajectoires de Stallone en 3 émissions. On continue évidemment avec la partie actu cette semaine.
Hey Endure, t'es un tireur à la con. J'ai horreur des tireurs à la con.
La partie actuelle cette semaine, c'est peut-être le jeu vidéo Torah qui adapte le mieux l'esprit de The Expendables. On va parler d'un film, j'ai dû le faire plusieurs fois dans l'émission, mais Yagd Alliance 3 est le film que beaucoup de gamers de genre sur PC attendaient, parce qu'il y a eu une première édition, 1 et 2 qui dataient des années 2000 à peu près, qui était vraiment la préhistoire du jeu vidéo tour par tour sur PC, hein, c'est vraiment des jeux qui ne sortent pas encore sur console, et ces jeux-là, ils décrivent l'arrivée d'une bande de mercenaires, des vieux soudards, plus caricaturaux les uns que les autres, très inspirés des films des années 90-2000, de ces films d'action qui ont été incarnés par Chuck Norris, les productions de la Canon, et évidemment par The Expendables. Yagd Alliance 3 est une pépite bourrée d'humour, à mourir de rire en tout cas, puisque ces mercenaires, vous devez les recruter et les jouer pour combattre des méchants dictateurs dans des zones reculées du monde. Alors en premier, vous deviez aller sauver une île, dans le deuxième, pardon, d'Arulco, qui s'est vaguement inspiré de Cuba. Dans le premier, de mémoire, vous alliez également en Amérique latine. Et là, en trois, on va dans une Afrique francophone, qui serait l'équivalent d'une petite partie du Sénégal. C'est très rigolo parce que le film est anglais, vous avez beaucoup de personnages anglais qui parlent avec un accent français à couper au couteau, qui est absolument génial, notamment quand il manque de mourir « I'm going to die » avec un accent français très prononcé. Donc pour les francophones, c'est très drôle, mais c'est aussi un très bon jeu vidéo qui reprend l'esprit de ces films-là, tel point qu'il y a un petit disclaimer à l'entrée du jeu vidéo, on vous dit que ces personnages sont caricaturaux, ils sont inspirés de ces personnages des années 90, parce que évidemment, c'est plus possible ces personnages-là d'être pris sans recul. Donc, un disclaimer indispensable, mais un vrai plaisir de jeu.
Ah, c'est un disclaimer qu'on voit, c'est très drôle de voir ça, un peu comme ce que fait Disney sur Disney+, en précisant que, il me semble, c'est Dumbo, je crois, oui, voilà, c'est Dumbo qui est précisé comme ça, en disant que c'est plus la vision de l'époque. Arrêtez de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux.
Pour
nous insulter, on le sait. Mais bon, c'est un film qui a existé, il faut que vous puissiez le voir. Donc, on essaye de faire un petit peu amende honorable là-dessus. Quoi.
Alors, pourquoi des fans de cinéma, des fans de Stallone, de Expendables prendraient plaisir à jouer avec Alliance?
Eh bien, c'est un vrai jeu qui joue sur tous les clichés possibles et imaginables de ce type de film. des clichés racistes, des clichés sexistes, des clichés sur les sur les modes de gouvernement en Afrique, ce genre de choses, et qu'il le fait avec une sorte de jouissance. On sent que les producteurs se sont amusés réellement.
En comparaison, on peut faire un parallèle avec la série Jeux Tropicaux qui se moquait énormément, beaucoup de séries
des dictateurs. Et en dehors de ça, en dehors de cette écriture qui est plutôt très drôle et qui est, il y a toujours des petites choses. Alors, c'est un jeu vidéo à l'ancienne, donc au tour par tour, c'est-à-dire que chaque joueur, enfin l'IA ennemi, c'est-à-dire l'ordinateur, joue à son tour, après à nous de jouer. Donc c'est un jeu stratégique, il faut anticiper un petit peu comme une sorte de jeu d'échecs. Mais c'est aussi tout l'humour qui est placé dans les petits à côté.
Oui.
Tous les fiches de personnages qui sont très très bien écrites, avec des doubles sens, ce genre de jeu de mots plutôt marrant. Et surtout, c'est un jeu stratégique.
Un vrai jeu, hein.
Un vrai jeu.
Pas dans un jeu parodique.
Non,
c'est vrai que les à côté sont très bons. Quand vous avez un mercenaire, par exemple, qui est mort au combat, vous avez des frais médicaux à payer, ce qui est très rigolo.
Voilà.
Vous avez, moi, un personnage que j'adore, que je reprends à chaque fois dans tous les ingrédients, c'est Fidel. Alors, lui, c'est le Cuba. Donc, il a fait la révolution. Et si vous ne tuez pas assez de gens, il s'en va. Mais alors, il y a eu une scène qui m'a fait pleurer de rire. Et évidemment, on la prend avec des pincettes, parce qu'on vous l'a dit, c'est un jeu qui prend l'esprit très sexy des années 90. Mais si vous avez un personnage féminin dans ce film-là, dans ce jeu-là, encore une fois, la puce révélateur, qu'elle loupe 2-3 fois sa cible, et que vous avez Fidel dans l'équipe, bah Fidel, il va dire quoi? Il va dire, écoute, tu vas faire les sandwichs, et moi, je m'occupe d'aller tuer les méchants. Et évidemment, quand on a un recul à 50 km, parce que c'est ce qu'il faut pour rigoler de cette scène-là, on a un vrai plaisir à jouer à ce jeu-là, et à parcourir également un jeu qui est très soigné au niveau de la bande-son. Je tiens à signaler, parce qu'on ne signale pas assez pour les jeux vidéo, mais la bande-son de ce jeu vidéo est très inspirée par les Expendables et ces films. J'irais même une bande-son qui m'a inspiré des très belles partitions de Jerry Goldsmith également.
Il y a aussi, pour ceux qui voudraient l'acheter, sur un ordinateur moyen, de moyenne gamme, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de raison de se freiner. C'est très joli, mais ça fait pas partie des plus beaux jeux de l'année, et c'est pas ce qu'on lui demande à ce jeu-là. Donc vous pouvez l'acheter même sur votre ordinateur portable, ça passera sans souci.
Il y a un plaisir coupable. Il y a une grosse rejouabilité, parce que c'est vrai qu'on peut le finir une fois la campagne très rapidement en 10-15 heures, mais vous pouvez la refaire avec d'autres personnages, d'autres choix de scénario également. C'est pas un scénario figé dans ce jeu vidéo. Et c'est absolument tordant et un vrai plaisir de jeu à tous les niveaux. Donc, on vous le conseille très vivement. Si vous aimez cet humour-là, si vous aimez cet univers-là, évidemment, et vous avez beaucoup de recul également, vous le trouvez sur toutes les plateformes. Et c'est Nordic, le studio qui édite ce jeu vidéo qu'on attendait depuis très, très, très longtemps. C'était la partie actu cette semaine. La semaine prochaine, justement, on se retrouve avec une dernière émission pour parcourir le thème de Stallone, sa vie, son œuvre. La semaine prochaine, ça va être une émission très spéciale parce que, vous savez, tous les mois, donc Graffiti Cinéma en faisait la saison dernière, on fera cette saison également, on a un film du mois qui illustre notre thème. On n'a pas réussi à choisir un film pour Stallone, donc on va en faire une émission de débat la semaine prochaine. On se retrouve avec le choix du meilleur rôle, du plus grand film de Stallone. On va sacrément débattre là-dessus puisqu'il y a 3 têtes de gondole. Peut-être qu'il y aura d'autres candidatures. Vous en parlerez évidemment entre Rocky, Rambo et Copland. Quel est le plus grand rôle de Stallone? Préparez, aiguisez vos couteaux. N'hésitez pas également à nous envoyer des sons, si vous nous entendez ici, vous pouvez parfaitement participer à l'émission, vous enregistrez, vous nous envoyez votre participation, on l'intègre au montage de l'émission. On sera très heureux de vous accueillir, en tout cas pour débattre évidemment de tout cela. Allez, c'est parti, la semaine prochaine, on vous dit salut pour cette semaine, et puis vous nous retrouvez évidemment sur toutes nos plateformes.
Bisous.
À bientôt.
T'as flingué un mec pour rien. Maintenant, ça va être ton tour d'être flingué.
Allons, merde! J'ai une bombe ici! Je vais la tuer et je ferai sauter la baraque!
Vas-y, je dois faire mes courses ailleurs. Allons, calme-toi, amigo. Tu veux causer? On va causer. Une bonne conversation, le voici.
Je refuse de causer avec vous! Faites venir les caméras ici tout de suite! Allez, faites-les venir!
Hors de question.
Pourquoi?
Je ne traite pas avec les caractériels. Je les supprime.
Je suis pas un caractériel, mec. Je suis un héros. Je débarrasse la planète de tous les pourris que je rencontre. Comment il faut vous le dire? Je suis un héros du monde nouveau.
T'es un cinglé. Et je veux te guérir.
Crève!
Lâche ça!
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça?
Hein? On va faire une pause parce qu'il y a Cléo qui vient d'arriver. Cléo, tu vas voir maman, ma fille?
Bonjour!
Bonjour! Bonjour.